Pour moi, l'esprit de pauvreté fait en sorte que rien n'est jamais acquis. Autrement dit, il faut que à chaque jour, d'ailleurs, c'est une réalité des pauvres. Les pauvres, ils n'ont pas de, ils ont pas de réserve en banque pour dans 30 ans. Le grand travail, c'est de se rendre jusqu'au lendemain. Donc, ils doivent inventer en quelque sorte constamment leur vie. Et l'esprit de pauvreté, bien sûr, on peut la rattacher à des personnages comme ça ou à mes parents et tout, parce que, mais ce n'est pas nécessairement lié non plus à un métier. Moi, j'ai un des livres phares de la littérature québécoise, pour moi, c'est Le Survenant. Alors, dans Le Survenant, on voit, tu sais, je ne veux pas mythifier la vie paysanne, parce qu'on peut être médiocre et riche dans la vie paysanne. Pour ceux qui n'ont pas lu Le Survenant, et qui, j'espère, n'ont pas vu le film, qui était très mauvais, mais ça raconte quoi, Le Survenant? C'est des gens qui vivent sur une île, okay, Kouchnac-du-Moine, mais ils vivent sur une île comme s'il n'y avait pas d'eau autour, comme s'ils n'étaient pas pris dans le mouvement pour faire la symbolique des lieux. Et là, on a un gros paysan qui vieillit, puis qui a un seul fils et une fille comme descendance. Et son fils, qui est Amable, hein, pour ceux qui ont lu, Amable, ben, sa vie lui est donnée, il va hériter de son père. Okay? Fait que la ferme est en train de mourir parce qu'Amable, il ne fera jamais rien, il n'y a pas de risque, il ne doit pas gagner sa vie puisqu'elle a été gagnée par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la notion d'héritage, pour moi, elle est très, très, très perverse, dangereuse. J'ai déjà écrit dans un livre, le parent dit à son fils, mon héritage, ton héritage, c'est ce que je ne t'ai pas donné. Et ça, c'est important. Parce que si ton héritage, c'est ce que je ne t'ai pas donné, ça veut dire que tu devras gagner ce que je ne t'ai pas donné. Mais comme on dit, je t'aurais montré à gagner ce qu'on n'a pas. Alors, arrive dans ce petit village de Chenac-du-Moine le survenant. Hein, ça va te parler, ça. Le survenant, il a fait le tour du monde. Okay? Et c'est, il arrive au Chenac-du-Moine et c'est lui qui ressuscite la vie au Chenac-du-Moine parce que comme il a fait le tour du monde et qu'il a pas, il s'est pas, comment dire, sclérosé comme Amable et tout, il enseigne à tout le monde comment faire leur métier, comment faire un canot, comment faire pousser des trucs, etc. Alors je me dis, le véritable héritage de la pauvreté, c'est l'héritage de personnes qui ne se sont enfermées dans aucun mode de vie et qui sont en mouvement. Et c'est ça, véritablement, l'esprit de la pauvreté. Contrairement à l'esprit du capitalisme ou de la culture de l'argent, qui est une culture stationnaire, c'est-à-dire on stocke, on stocke, on stocke. Et c'est ça le problème du Nouveau Monde. C'est né par des aventuriers qui sont venus à la découverte et ils ont transformé le temps en argent. C'est ça le drame. Or, ce que je vois se dessiner au Québec, c'est cela, c'est-à-dire des êtres qui se sont déracinés, pas uniquement parce qu'ils ont quitté le lien avec la terre ou avec la paysannerie ou quoi que ce soit, ça aussi, ça fait partie du déracinement, mais c'est parce qu'ils ne sont plus en mouvement. Ils commencent à compter leurs valeurs, leurs biens, leurs trucs et tout, c'est la mort. On va mourir, à moins que des êtres, comme il y en a plein ici, vont remettre ce pays en mouvement. Alors, moi, ce que quand je prône pour une sorte d'enracinement, mais d'enracinement dans le mouvement. Parce que sinon, c'est la mort. C'est la mort. Donc, c'est pour ça que le héros, ça ne devrait pas être Séraphin, ça devrait être le survenant. Et moi, Radio-Canada a supprimé toutes les émissions du survenant, sauf quatre épisodes. Mais ils ont gardé religieusement tous les épisodes des belles histoires des pays d'en haut. Ça, c'est symboliquement, ça veut dire que le Québec est mort. Parce que Séraphin, c'est tu stoppes, t'es mort. Le survenant, c'est le mouvement. Alors, si ce qui se passe au Québec, dans les régions ou dans les villes, dans un métier manuel ou dans un métier intellectuel, si ça ne renoue pas avec les personnages que tu décris, comme avec mon père et tout. Quand je regarde ce que mon père et ma mère m'ont laissé, ils m'ont laissé rien. Sauf qu'ils ont vécu avec rien. De rien en rien, ils ont fait une vie. C'est quand même assez incroyable. Mon père ne savait jamais s'il allait gagner ou perdre l'année suivante parce qu'il était à la merci des compagnies. S'il y avait trop de tempêtes de neige, son bois restait dans le bois, il perdait tout son hiver et tout. Et il recommençait et tout. Et c'était comme ça. C'était comme ça. Alors, le texte que j'ai écrit, Les Mangeurs de patates, c'est une revue faite par des jeunes qui ne mangent plus des patates, qui sont au Québec, il leur reste à manger leur diplôme, comme je dis. Et là, toute la révolution tranquille sur laquelle j'ai un regard très, très critique, ma génération, alors là, ils se disent, mais ils ne veulent plus regarder les mangeurs de patates. Ils ont honte de ces gens-là. Ils ont honte de cela. Et se détournant de cela, ils se détournent de ce qui devrait les faire vivre et qui va les faire survivre, en quelque sorte, comme nation, comme peuple. En tout cas, c'est une réflexion bien vaste, là, mais qui s'enracine dans quelque chose de très simple. Dès l'instant où on n'est pas capable de créer un pont vivant avec des êtres comme ça, on est fait. Ça, c'est sûr qu'on est fait. Parce que ça veut dire que le monde commencerait avec nous. Si le monde commence avec nous, c'est aussi bien de déménager tout de suite dans l'au-delà, parce qu'il serait très restreint, le monde qui serait là. En tout cas, c'est un peu le sens de l'héritage. C'est pour ça que j'aime les œuvres comme... J'aime ton œuvre, j'aime beaucoup l'œuvre quand j'ai lu l'œuvre de Stéphanie Pelletier, j'aime l'œuvre de Robert Lalonde. J'aime ces œuvres qui sont en mouvement. On peut être en mouvement en faisant un jardin, on peut être en mouvement en allant à Beyrouth, comme tu as fait, puis tu as reporté des pages extraordinaires de là. On est en mouvement comme le survenant, qui est autour du monde, mais qui est aussi en mouvement au chenail du moine, qui remet la terre en contact avec l'eau. Ça, c'est l'idéal. C'est pour ça que l'île est si fascinante. Pour ça, probablement, ça te fascine.
Oui.
Parce que si tu habites sur une île, tu ne peux pas oublier que tu es en mouvement. Ça ne se peut pas. Si tu vis sur une terre sans... Je pense à tes livres, Stéphanie, tu vis peut-être dans le cinquième rang, mais le fleuve est là. Il tire. Dans les romans, on est à l'intérieur des terres, mais il y a quelque chose qui tire.
Mm-hmm.
Tu as des passages terribles sur la description d'un petit village mort, à mon avis. Un village qui n'est pas tiré vers ce que le survenant appelait le vaste monde, qui n'est pas tiré à l'extérieur par le fleuve ou par une aventure ou par quelque chose et tout, il est mort. Parce que il faut ni mythifier la ville, ni mythifier la campagne, il ne faut mythifier et surtout essayer de pratiquer le mouvement, ce qui est le passage d'une forme à une autre.
Ce qui s'est passé au Québec, entre autres avec les villages, c'est qu'il y a eu une espèce, à un moment donné, comme on a laissé mourir les points de service, tu sais, tout ce qui était... Moi, je sais que j'ai un petit village du Lac-Saint-Jean, puis, je veux dire, on sortait pas de notre village. Ma mère faisait l'épicerie là, il y avait une quincaillerie, il y avait une fromagerie, un restaurant, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des lieux pour que les gens puissent se voir, se rassembler, il y avait des... carnaval, des tournois de baseball, de hockey, de ballon-ballet, de volleyball. Il y avait tout, tu sais. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je l'ai constaté, je l'ai vu, tu sais, cette déclinaison-là. Puis, je l'ai vécu de l'intérieur parce que mon père était maire pendant 10 ans de ce village-là. Puis, ça fait 20 ans de ça. Puis, les gens parlent encore de mon père. Ils s'ennuient de lui. Puis mes parents, ils ont été excessivement actifs, vraiment. Ça fait 40 ans que c'est des gens qui s'impliquent depuis 40 ans dans leur communauté. Ma mère a créé la bibliothèque du village, elle a créé le premier jardin d'enfants. Je veux dire, tu sais, vraiment des deux personnes extraordinaires. Puis, mais de voir quand même que, tu sais, à un moment donné, ben malgré cela, malgré parfois qu'il y a quelques personnes qui travaillent puis pour garder les choses vivantes, il y a quand même des événements qui arrivent puis qui font que, bon, ah, le bureau de poste vient de fermer, ah, on vient de perdre telle affaire. Mais le pire dans tout ça, c'est d'avoir laissé fermer ça sans se rendre compte que ça prendrait des années et des années et des années à retrouver. Ça prend 5 minutes à mettre la clé dans la porte, mais ça prend 30 ans à récupérer après. C'est vraiment, vraiment triste. Puis on est là-dedans, puis... Moi, je le vois, on l'a vécu dans mon village, puis là, maintenant, tu sais, ma mère est encore là, puis elle participe, là, elle est sur le comité de développement, elle est à la bibliothèque, elle est au comité horticole, elle est partout, mais le comité de développement, ben il y a des gens de tous les âges, puis là, ben ils essayent de recréer des choses, puis c'est vraiment laborieux. Puis là, ma mère arrive avec son expérience. Elle dit, ah oui, là, on avait ça quand il y a 25 ans, ça existait, puis telle affaire. Puis c'est vraiment la mémoire de ce groupe-là. C'est fascinant. Mais En tout cas, ça pour mais dire que...
On tue les villages exactement comme on a tué les sols, comme on est en train de donner nos sous-sols aux hydrocarbures et tout. C'est la même chose.
Oui.
La même chose qu'une agriculture industrielle a tué les sols pour 15 ans, 20 ans, et bien on tue la population de la même façon. Pourquoi? Parce que à l'héritage et à la culture de l'esprit de pauvreté a succédé une chose très simple qui s'appelle la culture de l'argent. La culture du profit à court terme, tout le temps. La culture du désir immédiatement assouvi. On met tout ça ensemble, ça veut dire que les villages sont morts, les sols sont morts, le pays, peu à peu, va devenir mort, une culture morte, qui va à la fois se folkloriser et se divertir, se péter les bretelles, dans les juste pour rire jusqu'à la fin du monde. C'est sûr, c'est ça. C'est ça qui est en train d'arriver. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on perd contact avec ce qui est vivant, que ce soit le sol, avec ce soit des gens comme ceux que tu décris et tout, etc., bien, on est fait. On est fait. On devient une caricature. On est en... On est, comment dire, en mode survie. On vit sur ce qui a été fait et on va l'épuiser jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. C'est pas possible. Et moi, ce qui me renverse, et c'est à la fois l'espoir et le désespoir, c'est qu'en 50 ans, il y a eu des choses extraordinaires. J'aime croire, parce que j'ai enseigné pendant 40 ans, j'ai vu des étudiants. On a produit ou créé ou formé des êtres extraordinaires dans tous les domaines. Et le résultat, c'est le dépérissement que tu décris. Là, il va falloir qu'on s'attelle sérieusement à la tâche de comprendre comment est-ce qu'on a pu développer des compétences, avoir tant de ressources humaines et naturelles et être dans une telle médiocrité qui nous amène directement dans le déclin de tout.
Oui, mais on dirait qu'il y a une transmission qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui
Bien, moi, je pense que c'est la première génération qui sort du bois devient idiote. C'est ma thèse. Je m'inclus là-dedans. J'ai vécu avec la première génération qui est sortie du bois et ce sont des imbéciles heureux. Je m'excuse, là, je l'ai vécu. Et j'ai vu des gens qui ont saboté cette chose qu'on aime tant, qui s'appelle la littérature. J'ai vu les universités et même les collèges débarquer avec leurs gros sabots épais dans la littérature et la tuer. Parce que la littérature, comme on en parle, comme on l'aime, c'est une chose vivante, comme un sol, comme quelque chose. Tu débarques là-dedans avec ton gros tracteur. Que ce soit tantôt la sémiotique, tantôt ceci, etc. Et j'étais malheureux comme les pierres, moi qui avais ce rapport vivant avec la littérature, de voir tous ces robots débarquer dans les œuvres et les déchiqueter. Bon, alors je me dis, la première génération, c'est comme les nouveaux riches, quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent. C'est un miracle s'il ne devient pas un imbécile s'il gagne à la loto. C'est clair. Il faut digérer sa première richesse, il faut digérer ses diplômes. Alors moi, j'espère, vous êtes de la génération qui a digéré ses diplômes. Okay? C'est l'espoir. Est-ce que... Non, mais je suis sérieux. C'est véritablement ça, l'espoir. Oublions ma génération. C'est fini, là. Ils ont tout scrappé. Je m'excuse de le dire, là. Ils ont tout scrappé. Ils ont tous scrappé, ils ont fait le Québec dans lequel on vit et qui est un Québec de la culture de l'argent, du divertissement, de la société du spectacle, du confort. On est loin de la zone d'inconfort. La chance, c'est que, tant pis pour vous, vous allez être condamné à la pauvreté. Cherchez-en un job demain. Vous allez être obligé de vivre en pauvre, comme nos parents et vos grands-parents probablement et tout. Mais en même temps, c'est cette pauvreté qui va vous sauver, qui va vous garder vivant. Qui va vous garder alerte et tout, vous allez être obligé de réinventer un système qui va vous rejeter. Ça, c'est sûr. C'est ce que... Une fois, Paul-Émile Leroy, qui avait une correspondance à votre bon cœur, il enseignait dans un collège, je n'avouais pas la personne pour le sauver, mais qui voulait faire venir une conférencière, une femme très connue, je ne la nommerai pas, la charité m'oblige à ne pas la nommer. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans l'édition de la correspondance. Et la personne en question que le collège voulait inviter... Elle demandait 5 000 $ pour la conférence il y a 30 ans. Évidemment, le collège ou l'institution, je ne sais plus, ils ne l'avaient pas. Et là, votre bon cœur répond à Paul-Émile Leroy et dit « La pauvreté vous a sauvé. »